ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe Ener, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnelles et Financière de Courcelles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Nicolas Lapeyre, directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur, et Charles Robinet-Dufault, le président du groupe Ener. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir un premier invité, Laurent Desmal, CEO de Les Ailes. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors vous êtes né en 1972 dans la Ville Rose à Toulouse. Vous êtes ingénieur ESTP. Vous avez commencé chez Bouygues Gabon. Un souvenir, Laurent, d'une semaine dans la forêt vierge à la recherche de gisements de roches pour créer une usine granulée. Donc, cherchez-vous des granulés, c'est ça ?
Oui, bah, il fallait, on fabriquait, on construisait une route et bah, il faut chercher du caillou. Et donc, vous allez dans la forêt vierge avec une terrière et 7 personnes. Et puis, vous cherchez du caillou. Donc, une semaine.
Vous avez trouvé ou pas ?
On a trouvé, mais je suis tombé en panne pendant 24 heures.
Bon, après un autre souvenir, vous êtes né à Toulouse, vous adorez le rugby, je suppose que votre club de cœur c'est Toulouse, bien sûr.
Pas le choix.
Absolument, Laurent et Nicolas est d'accord. Il paraît que vous avez un souvenir mémorable de 6 mois d'entraînement pour un match de rugby.
Oui, alors j'ai fait 30 ans à l'étranger, et dans chaque pays j'ai joué au rugby, et puis ben, en Russie on avait monté une équipe pour jouer contre le client qui était dans l'Oil & Gas, et on s'est entraîné 6 mois pour faire un match avec 25 blessés à la sortie du match, donc mission accomplie.
Vous l'avez gagné quand même, non ?
On l'a gagné.
Bon, alors anecdote également sur une réunion assez surréaliste avec des sous-traitants potentiels chinois.
Oui, bah dans ce métier, c'est le monde, il n'y a pas de frontières. Et donc, quand vous devez négocier avec des Chinois, bah vous vous rendez compte que le monde a des frontières qui sont inconnues sur l'engineering. Enfin, je suis ingénieur et donc, ils ne calculent pas comme nous, en plus de ne pas penser comme nous et de ne pas parler comme nous. Donc,
et puis, ils respectent les contrats ou pas ?
J'ai pas eu le temps de m'en rendre compte, mais je regrette pas de pas l'avoir vérifié.
Alors, vous avez rejoint Les Ailes en 2017, une société située dans les Vosges, hein, 600 mètres d'altitude, on prend un peu de hauteur. Un mot sur l'historique de la boîte, ça a été créé quand ?
46, au départ des Allemands, ils ont fait sauter le village. Hein, on a oublié cette histoire-là, Gérard May et la Bresse. Et du coup, il a fallu reconstruire le village, donc des fenêtres. Et donc, on a fait l'entreprise à partir de là. Et 50 ans d'histoire familiale, puis la Perse Saint-Gobain, puis un fonds d'investissement. Puis, en 2021, on a racheté l'entreprise avec les 500 salariés.
Aujourd'hui, 500 salariés, combien de chiffre d'affaires pour le
temps ? On fait 150 millions.
150 millions, donc une belle ETI. Alors, les produits et services que vous dispensez ?
Oui, alors on fait des fenêtres PVC aluminium pour des chantiers de neuf et de rénovation et on les installe sur les chantiers. Donc, on répond aux promoteurs, aux bailleurs sociaux et puis aux entreprises générales. Donc, il y a 1000 chantiers par an avec 150 personnes partout en région avec des agences travaux.
Ça en fait les fenêtres ?
200 000.
200 000 fenêtres, quoi. Ouais. Bon, l'immobilier, en ce moment, ça craint. Hein.
Le mot est faible.
Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Il y a des bonnes mesures du gouvernement ? Enfin, on attend toujours tout du gouvernement, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer un peu les choses, hein, desserrer un peu les taux ?
Vous avez 2 heures ?
2 heures.
non, mais on sort de 30 ans de bâtiment qui a été aidé, donc il coûte très très cher aujourd'hui. Vous rajoutez à ça l'explosion des coûts des matériaux et surtout la hausse des taux, tout est bloqué. Donc aujourd'hui, on est sur du moins 50% de construction.
Moins 50%.
Moins 50%. Et aujourd'hui, mon niveau de devis a baissé de 50%, donc ça va être une catastrophe. Vous avez la moitié du BTP qui va y passer, enfin si on ne bouge pas.
Donc il y a des défaillances d'entreprise
Ça arrive, c'est une vague. Et ça va être la folie, puisqu'un chantier, il n'y a qu'un sous-traitant, il en suffit d'un qui plante pour que tout le chantier soit arrêté. Donc, 1 sur 15, ça va être beaucoup plus que ça. Donc.
Bon, là, vous plombez l'ambiance de l'émission. Là. Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait être positif quand même ? Dites-nous, là, Laurent, vous avez un truc positif. Pourquoi ça va fonctionner quand même ?
Parce qu'on on a des idées dans le BTP, donc on va se démerder, quoi.
Charles !
Non, moi, bravo pour le parcours. Ce qui m'a frappé, c'est la richesse de l'activité internationale que vous avez eue. Et donc, ma question, c'est qu'après votre parcours international, aller dans les Vosges pour diriger une entreprise, que vous apporte la richesse d'avoir été à l'international et comment vous transformez différemment cette entreprise parce que vous avez été à l'international ?
Très bonne question.
Vous avez deux heures aussi.
Non, il faudrait du temps, mais vous avez touché le sujet. Quand vous avez fait, comme moi, 20-30 ans à l'international à faire des gros projets, hein, c'était des projets de jusqu'à 3 milliards d'euros, donc vous avez 15 nationalités, vous êtes 5000 personnes sur le chantier, voire 20 000, donc vous vivez des trucs incroyables. Vous faites des rencontres incroyables. Et j'ai démarré très jeune, jusqu'à plus de 40 ans. Du coup, après ça, qu'est-ce qu'on fait quoi, pour s'éclater ? Donc moi, j'avais envie de vivre l'entrepreneuriat, mais aussi le vivre pour trouver du sens. Voilà. Et donc, faire vivre, je viens d'un petit village des Pyrénées. Hein. Mes cousins font vivre le village et c'est dur de faire vivre...
Comment il s'appelle le village ?
Saint-Pé-de-Bigorre.
Combien d'habitants ?
Voir ça. 1500.
Vous êtes quoi, dans l'Ariège ?
Non, on est à côté de Lourdes. Donc, c'est les Hautes-Pyrénées. Donc c'est compliqué de faire vivre un village. Donc me dire, je peux apporter quelque chose, faire vivre un village qui fait vivre l'entreprise, une entreprise qui fait vivre un village, ça me donne du sens. Le BTP, je vais être servi, il y a du challenge, parce que gagner sa vie dans le BTP, c'est pas facile. Donc, et puis je peux apporter quelque chose, parce que j'ai ouvert l'esprit. Dans le BTP, on est quand même, on n'a pas beaucoup d'argent, donc il y a peu de développement, il y a peu de créativité. Donc en mettant tout ça ensemble, on va pouvoir faire des choses. Donc on a fait des choses depuis le temps, hein. On a redressé l'entreprise et puis on a racheté l'entreprise avec les salariés, on est devenu une entreprise de la mission, on a créé une start-up qui fait du recyclage, qui aujourd'hui a créé 25 emplois d'insertion. Enfin voilà, on peut s'éclater. Et puis comme on est devenu actionnaire majoritaire entre guillemets de notre propre entreprise tous ensemble, même si on accompagne avec des fonds minoritaires, hein, comme BPI et BNP et Dev, on peut mener la barque comme on l'entend et créer la valeur comme on veut la créer en pondérant le social, le financier, etc.
Charles.
Je suis tout à fait d'accord. Nous, on a accompagné chez NR la plupart des entreprises du CAC 40 dans l'actionnariat salarié, donc ça nous parle beaucoup. Mais en ce qui concerne la gouvernance, est-ce que ça a changé des choses chez vous?
Le fait de devenir nos propres actionnaires?
Oui,
puisque il y a plus de fonds d'investissement. Donc, d'une part, on a créé un projet d'entreprise qui tourne autour de l'entreprise de la mission. On a un projet de développement évidemment économique fort, en se donnant des moyens financiers pour faire du développement. Donc il n'y a pas de dividendes, il y a très peu de dettes, etc. Donc on peut le déployer en résilience. Sur la gouvernance, on a un comité de suivi où j'ai deux administrateurs que j'ai nommés moi, en plus des deux qu'ont nommé les fonds. On a la voix majoritaire, donc l'idée c'est d'avoir le consensus là-dessus. Maintenant, on est quand même majoritaire chez nous, entre guillemets, en plus du comité de mission, puisque dans toute entreprise de mission, il y a une comité de mission, mais là, qui est beaucoup plus centrée avec les salariés pour s'approprier ces idées de créer de la valeur sociale, sociétale et environnementale.
Charles ?
Non, moi, je pense que ce sont les meilleurs modèles, en fait, c'est, qui allient le meilleur des deux mondes, en fait. Ce monde économique très exigeant et, en fait, est aussi un monde de salariés, de collaborateurs très engagés et qui tiennent énormément à leur entreprise, donc qui peuvent s'organiser sur le long terme.
Absolument. Et je vais même me dire aujourd'hui, les enjeux systémiques qui nous arrivent dessus, enfin le réchauffement climatique, etc., etc., sont des enjeux qu'il faut tellement prendre en amont, vous ne pouvez pas les gérer en mode crise. Vous n'avez pas le temps et l'argent et les ressources pour y répondre. Donc il faut le prendre dans le temps long. Et le temps long, ça implique d'embarquer des actionnaires, mais il faut avoir des actionnaires qui calculent dans le temps long. Voilà. Donc quand on est salarié, on est dans le temps long par définition. Et puis embarquer tout le monde parce que c'est accorder des ressources financières et humaines sur des sujets où le retour sur investissement est dans 15-20 ans, quoi. Mais si vous ne le faites pas, vous êtes mort dans 15-20 ans.
Nicolas ?
Le temps long, c'est un sujet qui nous parle, nous, chez Généo, hein, de fait de notre modèle. Mais moi, ce qui m'intéresserait vraiment de creuser avec vous, c'est d'où vous vient, alors je comprends l'idée de société à mission, mais Pando Recyclage, moi j'aimerais qu'on creuse un peu là-dessus.
Oui.
Parce que je trouve que c'est très intéressant en fait d'être un acteur du BTP engagé, il n'y en a pas encore énormément, en tout cas sur les statuts de société à mission, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes du BTP qui sont sur ce statut-là. Donc est-ce que l'idée vient du sujet société à mission, ou est-ce que vous l'avez eu avant, après?
Donc, absolument, non, il vient du sujet entreprise à mission. Le sujet entreprise à mission, c'est l'idée de se dire, en tant qu'entreprise, on doit créer de la valeur financière. Quand vous devenez entreprise à mission, dans vos statuts, vous dites que vous avez une raison d'être et des missions. Et donc, nous, on s'est donné comme raison d'être et comme mission de créer de la valeur sur les cinq axes, financier, social, sociétal, environnemental et économique. L'idée, c'est de se dire que si on ne crée pas la valeur sur un des axes, on disparaîtra. Et si vous le reprenez, financier, c'est une évidence. Économique, vous faites quelque chose qui ne sert à rien, vous disparaissez. Le social, si vous n'avez pas de salariés engagés, un jour ou l'autre, vous disparaissez. Sociétal, si votre écosystème, l'État, les clients, les fournisseurs, le village disparaît, vous êtes mort. S'il est fort, vous êtes fort. S'il est faible, vous êtes faible. Et l'environnement, si on ne fait pas gaffe, on disparaîtra collectivement dans un joyeux bûcher. Donc, si vous ne faites pas gaffe, si vous créez de la valeur sur chacun des cinq axes, vous êtes fort. S'il y a un axe sur lequel vous êtes faible, vous risquez de disparaître. Et une crise, et on en a certaines en ce moment, vous embarquera. Donc, une fois qu'on dit ça, on s'est dit, on fait des fenêtres, et en particulier en PVC. PVC, c'est super bon au niveau environnemental parce que c'est pas cher et ça permet de rénover les maisons. Et 40% des émissions carbone, c'est le logement. Donc, il faut rénover le maximum de maisons. C'est performant thermiquement et c'est pas cher. Le problème, c'est qu'environnementalement, ça vient du pétrole. Dans 25-30 ans, le pétrole, il n'y en aura plus que la moitié. Hein. Moi, j'ai 30 ans dans le pétrole. Donc, les pays exportateurs n'exporteront plus de pétrole. Donc, on n'aura plus de pétrole en France. Il faut quand même se le dire, on ne nous le dit pas beaucoup, mais c'est comme ça. Le vitrage, c'est fait avec du silice. 2050, il n'y a plus de silice en France. 2100, il n'y a plus de silice dans le monde.
Il n'y aura plus de fenêtres.
Il n'y aura plus de fenêtres. Lascaux va remonter.
Non, mais c'est vrai.
L'immobilier de Lascaux va être preneur. Tout ça, une fois qu'on dit ça, ça veut dire qu'on a un enjeu. Soit on le voit en termes systémiques, global, la fenêtre PVC, il faut arriver à la rendre performante au niveau environnemental. Comment on fait? On a cherché, hein. Et on s'est payé, en tant qu'entreprise de la mission, il fallait être cohérent. Donc on a cherché, on s'est dit, on va peut-être faire du bois, mais le bois c'est très cher, donc on ne peut pas rénover beaucoup de maisons. L'aluminium, c'est à la fois très cher et à la fois la performance environnementale est très mauvaise, puisque l'empreinte carbone est horrible pour l'aluminium. Donc il fallait rendre le PVC environnementalement performant. Comment ? On a fait une start-up. Pendant un an et demi, j'ai embauché un start-upper en interne, qui a développé. On a ouvert un atelier, on y a mis 10 000 fenêtres à démonter, puisqu'on fait des chantiers de rénovation, donc j'en démonte 80 000 par an, donc j'en ai mis 10 000 là-dedans avec trois bonhommes. On a cherché le modèle, parce qu'un start-up, c'est chercher un modèle économique. Donc, on a cherché le modèle en démontant, mais aussi la réglementation, ni aussi les acteurs, ni aussi la valeur, etc., etc. Au bout d'un an et demi, on a créé Pandore Recyclage. Là, j'y ai mis un développeur. Donc, ça fait maintenant un an et demi. Et on récupère les fenêtres sur les chantiers, dont les nôtres, mais aussi tous ceux des autres. Donc, on en a déjà récupéré, rien que sur l'année 2023, 20 000 fenêtres, 1000 tonnes, dans des centres de démantèlement avec des partenaires d'insertion. Donc, des spécialistes de je remets des gens dans la vie par l'emploi. Nous, on apporte le boulot de façon pérenne. Donc, on a créé 25 emplois d'insertion pérenne déjà cette année avec 5 centres sur tout l'est de la France. Sur 5 centres, on ouvre deux autres centres dans les 6 prochains mois. Tous les matériaux sont récupérés à plus de 80% pour refaire le même usage, c'est-à-dire du vitrage pour refaire du vitrage. Parce qu'il redevient de la bouteille, il ne peut pas revenir du vitrage, il faut de la silice et un jour, il n'y en a plus. Le PVC, on le garde. L'aluminium, l'acier, évidemment, ça redevient de l'aluminium et de l'acier. Le PVC, on le fait passer chez le spécialiste européen du traitement du PVC. Derrière, on le fait re-excluder par notre excludeur et on refabrique des fenêtres avec le vieux PVC. 70% de nos nouvelles fenêtres à partir de dans 6 mois sont faites avec les vieilles fenêtres. Il y a 250 millions de fenêtres en France PVC installées qui demandent à être déposées et qui sont dans nos limites géographiques. Donc, une fois que vous dites ça, si je ne le fais pas, demain, moi, mon empreinte carbone de ma fenêtre sera inférieure à celle du bois. Hein, donc, il y a des enjeux, la RE 2020 et puis l'empreinte carbone tout court. Je ne dépendrai plus du pétrole, ni en prix, ni en ressources pour faire mes fenêtres, mais de mes déchets et des 250 millions de fenêtres qui seront démontées en France un jour.
Oui, il y a de la marge, ça.
Donc, la géopolitique va commencer à jouer dans les ressources des matières premières. Et je crée de l'emploi, je crée des...
Bon, vous êtes génial, Laurent. Vous savez que vous êtes génial comme garçon.
Pardon ?
Vous êtes conscient d'être génial ?
Pareil, ma femme me le dit souvent.
Ouais. Bon, pour terminer, le plus haut métier du monde, c'est quoi ? C'est dirigeant d'une ETI de croissance avec votre start-up aussi ou alors directeur du Parc national des Pyrénées ?
Ah, c'est une bonne question. Il y en a une, j'ai pu vérifier. L'autre, je crois que ça restera un fantasme. Et papa, c'est pas mal aussi.
Merci beaucoup, Laurent. Ne changez rien, vous êtes parfait. Merci également à vous, Nicolas et Charles. Vous êtes très bien tous les deux aussi. Fin de ce numéro d'ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez les actualités sur le compte LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.
L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle et Financière de Courcelles.